passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous, vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir et le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus.
Merci. J'ai parfois un peu l'impression que peut-être dans nos milieux évangéliques, on confond parfois l'activisme avec l'engagement. Alors c'est vrai que nous sommes appelés à entrer dans des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, mais on n'est pas appelés à pratiquer une sorte de religion évangélique qui serait rempli de choses à faire pour obtenir la faveur de Dieu. Et il est toujours bon de se poser la question lorsqu'on prend un engagement, qu'est-ce qui me motive? Est-ce que je réponds à un appel que je ressens du Seigneur? Est-ce que ma motivation, c'est l'amour, c'est la reconnaissance pour Dieu? Ou est-ce que c'est, pour simplifier, je vais dire, c'est de noircir un peu plus mon agenda? Il paraît que dans nos milieux, on avait cette expression de ceux qui étaient atteints de la réunionite. Toi, Jean-Paul, un ancien, ça a dû entendre ça. Mais moi, je l'ai entendu quand j'étais plus jeune, on m'a dit « Fais attention, Jean-Pierre, il ne faut pas être atteint de la réunionite. » Mais je pense que c'est dans le monde évangélique, hein, ça doit être d'une manière générale. On sait qu'on est sauvé par grâce et on aime à le proclamer. Mais parfois, quand on arrive dans l'église, on a parfois un comportement qu'on a l'impression qu'on est sauvé par les œuvres qu'on va accomplir. Et parfois, certaines personnes vont bien se sentir s'ils font partie de beaucoup de choses, sont engagés dans beaucoup d'endroits. Alors, j'ai l'impression, je suis un bon chrétien, je vais être aimé par Dieu. Mais ce n'est pas tout à fait le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est en premier lieu que je suis aimé par Dieu tel que je suis. Hein? Une fois que je me suis réconcilié avec mon Créateur, je suis aimé par lui. Et si j'ai envie d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, c'est par reconnaissance, c'est par amour pour lui, et surtout parce qu'il m'appelle à entrer dans ses œuvres. Le Seigneur ne demande pas d'aller dans toutes les réunions d'église, dans toutes les réunions de comité, dans toutes les manifestations qu'il y a, pour dire tu es un bon chrétien. Sinon, on inverse les choses, on finit par se fatiguer, voire même se décourager. Je me dis que si le Seigneur a préparé les œuvres d'avance pour nous, c'est marqué d'une manière claire dans la lettre aux Éphésiens, nous sommes appelés à entrer dans ces œuvres. Mais s'il les a préparées d'avance pour nous, je ne devrais pas être en train de courir partout pour savoir quelle est l'œuvre que je dois accomplir. En théorie, je me dis, le Seigneur, dans le chemin de ma vie, dans mon quotidien de la vie, il doit les mettre devant moi, ces œuvres. Je ne pense pas que la volonté de Dieu soit qu'on passe notre vie à prier justement pour connaître sa volonté. Et moi qui travaille avec pas mal de jeunes, qu'est-ce que je peux entendre un peu cette question? Ah, dit JP, comment qu'on fait pour trouver la volonté de Dieu? Il y a tellement de livres qui ont été écrits sur ce sujet. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu qu'on cherche tout le temps sa volonté. Sa volonté, c'est que les convives déjà en tant que témoin de ce qu'il a fait dans notre vie. Là, je me permets de donner un exemple parce que les gens ne sont pas là. Là, on était chez Pierrot et Laurette. Donc, pour nos amis, ce sont des gens de l'église qui sont un certain âge et qui font des chambres d'hôtes. Donc, hier, on avait une étude avec eux, avec deux autres personnes. Donc, il y a une petite étude et un très grand repas. Donc, c'est comme ça. Et après, on a dormi chez Pierrot et Laurette et ce matin, on a déjeuné avec tout ça. Et on leur a exprimé aussi notre reconnaissance, c'est-à-dire que par la vie qu'ils mènent, ils sont vraiment des modèles. Et ma femme leur a dit, on aurait tellement aimé avoir des grands-parents comme vous. Vous voyez, ils sont des personnes et ils dégagent des choses. Et je me disais en les regardant, mais finalement, ces gens-là, t'as envie de te rapprocher d'eux, de savoir mais pourquoi ils sont comme ça, si complices, si s'aiment après 50 ans, plus de mariage. Franchement, ils sont extraordinaires, je trouve. Et pourtant, on n'a pas l'impression de voir Pierrot et Laurette tout le temps courir dans tous les comités, dans toutes les choses comme ça. Mais ils ont un témoignage de vie dans la région, que si vous faites référence à eux, tout de suite, c'est des gens bien. Voilà une œuvre à remplir. Déjà, par la vie que je mène, que ma vie puisse rendre gloire à notre Dieu. Alors ici, dans notre texte, Pierre et Jean, eux vont vraiment entrer dans une œuvre qui est préparée par le Seigneur. Et j'ai distingué comme trois étapes. Il y a eu qu'il y a la prière, il y a la foi, et puis il y a la prédication de l'Évangile. Et tout au long de cette histoire, c'est le nom de Jésus qui est glorifié. Et l'apôtre Pierre fera bien attention lorsque les gens vont regarder à lui et tout, à dire « Pourquoi vous nous regardez comme ça ?» Et en gros, il leur dit « Tournez vos regards vers celui que vous avez crucifié et qui aujourd'hui est ressuscité. » Dans le chapitre d'après, ils vont se faire arrêter, ils vont être jugés par le tribunal juif, le Sanhédrin, et là aussi, ils vont dire « C'est ce Jésus que vous avez crucifié qui a guéri cet homme. » Ils vont toujours faire remonter la gloire vers Jésus-Christ. Ils ne cherchaient pas à se faire un nom pour dire « Vous avez vu tout ce que nous, on accomplit, hein, le grand apôtre Pierre, il n'a pas monté une fondation, rien du tout. » Mais il a toujours glorifié le Seigneur. Et ce qui peut déjà être un encouragement pour nous, c'est de comparer la vie de l'apôtre Pierre dans les évangiles et la vie de l'apôtre Pierre dans les actes, et de voir cette transformation qu'il a vécue. Et il a vécu suite à la Pentecôte et tout, mais avant la Pentecôte, il y a eu un événement important, c'est que Pierre avait relié Jésus. Il a été au bout de ses limites et le Seigneur lui a montré, tu vois Pierre, tu as beaucoup de bonne volonté, tu as peut-être des bonnes motivations, mais tu es un homme limité. Et là il est tombé. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, on voit Jésus le restaurer. Vous rappelez, Pierre, m'aimes-tu ? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ce Pierre qui a renié Jésus devant une servante, et bien, quand on voit dans les actes devant qui il prêche. Et là devant ce temple, il monte avec Jean au temple, alors de la prière. À 3h d'après-midi, il n'y avait pas autre chose à faire, franchement. Là, non ? La prière, hein, c'est... Tout le monde sait que c'est important. Tout le monde sait qu'on devrait passer du temps dans la prière. Mais parfois, quelle lutte pour dégager justement dans nos agendas remplis de réunions et d'activités du temps pour la prière. Pourtant, on sait que c'est une arme puissante. C'est un privilège quand même de pouvoir s'adresser au Dieu qui a créé ce monde. C'est un privilège quand même de pouvoir invoquer le nom de celui qui est ressuscité. Mais on a tellement de choses, parfois, plus importantes à faire. Hein, tous les soirs, il faut regarder Plus belle la vie. Ça prend déjà du temps. Et puis après, on a notre club de sport. Il faut aller au sport pour recevoir les amis. Mais réfléchissez parfois à la capacité qu'on a d'aligner des réunions ou des choses l'une derrière l'autre. Et après, on va bien sûr... pas le temps de prier, mais on a une bonne excuse. On avait des réunions et des choses à préparer, des choses comme ça. Moi, je sais que dans ma journée, si le matin, je ne fais pas mon culte perso, il y a 9 chances sur 10 pour que dans la journée, je ne le fasse pas. Même si je ne le fais pas le matin, parce que j'ai vraiment urgent à faire avant midi, mais si je le ferai au début d'après-midi, le début d'après-midi arrive, je regarde un peu les mails, oh dis donc, et après il arrive le soir, ben, je n'ai pas prié. On vit aussi tellement avec cette illusion qu'on est capable de faire des choses par nous-mêmes. Hein, on est des techniciens. Hein, on sait comment on anime une réunion et tout ça. Et on pense à pas besoin franchement de prier, on va préparer un cul, on n'a peut-être pas franchement besoin de prier. On va faire tel truc d'évangélisation, on n'a peut-être pas franchement besoin de prier parce qu'on sait les trucs qu'il faut mettre en place et tout. Et je pense qu'on tombe vraiment dans un piège. Parce que observez dans toute l'écriture l'importance qu'a la prière, que ce soit de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Regardez les hommes de Dieu qui sont là, le temps qu'ils ont passé à prier. Regardez Jésus, qui est quand même notre modèle, le temps qu'il a passé à prier, lui, le Fils de Dieu. Pour choisir les 12 apôtres, il a prié 10 minutes. Ah, merci de réagir aujourd'hui. Non, il a prié une nuit. Hein? Moi, j'ai fait des nuits blanches, hein, quand j'étais jeune et que je faisais la fête. J'ai fait des nuits blanches et allé au boulot le lendemain, mais... Des nuits blanches de prière, est-ce que ça nous arrive de faire ça? Elle me pose parfois la question, comment notre Seigneur qui nous a donné son esprit va-t-il pouvoir agir en nous et nous transformer si on fait un culte perso tous les deux jours de 15 minutes entre la lecture et la prière? Est-ce qu'on pense qu'il va pouvoir vraiment nous transformer? Et moi j'ai de la chance dans mon ministère, c'est que je passe dans beaucoup de familles. Et donc, je vais bientôt inventer un livre de recettes, hein, puis je vais mettre des notes, parce que je passe partout. En Alsace, à Choucroute, j'en ai mangé de toutes les manières. Et en là, ils ne vous donnent pas leur petit secret pour lui donner un petit goût. Hein, la Mariette a pas voulu me dire qu'est-ce qu'elle mettait dedans. Ah, je ne te le dirai pas, Jean-Pierre, t'as qu'à venir la manger à la maison. Hein, hein. Mais quand on voit les plats qui arrivent sur la table, on se dit, la personne n'a pas passé juste 10 minutes à la cuisine, ça a peut-être été un petit peu plus long. Hein, et si on veut que ça soit un repas de qualité, ben, y a des heures de boulot. Hein, y en a qui vous font un repas en 10 minutes, un steak, vous ne le bouffez pas. Hein. Hein, quand vous l'avez mangé, là, pour 3 jours à le dire. Mais ça n'a rien passé à notre amitié, je te rassure aujourd'hui. Mais vous voyez, vous voulez un bon repas au passé du temps. Si vous voulez une relation profonde avec Dieu et que Dieu agisse dans votre vie, ce n'est pas en priant 10 minutes chaque jour qu'il va se passer quelque chose. Et regardez quand on est dans la prière déjà, le temps qu'il nous faut des fois pour vraiment être dans la prière. On a tellement de choses dans la tête, justement, toutes ces activités qu'il y a sur l'agenda. Hein, et combien de fois moi je suis en train de prier et je pense à quelque chose, je m'arrête, je note sur un papier et parfois ça dure longtemps. Et je me dis non Jean-Pierre, il faut vraiment que tu t'arrêtes. Combien de fois je lis ma Bible et en lisant la Bible je vois, ah il y aurait un bon truc pour faire une prédication ou un message ou deux. C'est pas évident. Vous avez déjà dit peut-être, je ne sais pas si vous avez fait le test, essayez une fois de rester pendant 15 minutes dans le silence. C'est une super expérience. Mais alors quel mal à rester en silence avec tout ce qui vous passe dans la tête et tout. J'ai eu une stagiaire pendant un mois à la maison et tous les jours on avait un temps de prière ensemble et on faisait ça. On restait un quart d'heure dans le silence, après je lisais un psaume, on reprenait 5 minutes de silence et seulement après on entrait dans la prière. Et on a vécu vraiment des choses super. Et je me suis dit, il faut vraiment que je continue avec ça, j'ai dû continuer pendant 2 jours. Parce que tellement que j'avais du mal à faire ça et je suis conscient que la prière c'est une lutte. Il faut une certaine discipline, mais on arrive à un moment donné à passer de la discipline au plaisir de prier, à la joie de dire voilà, je vais prendre mon temps pour Dieu. Il faut faire ça avant de regarder son agenda et tout, parce que sinon on diminue ce temps qui est pourtant tellement précieux. Lorsque les apôtres vont nommer les diacres au début du livre des Actes, il y a des diacres qui vont être nommés pour faire le service aux tables, la comptabilité, là je ne sais pas quoi exactement, mais et les apôtres, et nous nous consacrerons à la prière et à la parole. Nous nous consacrerons à la prière et à la parole. Vous voyez donc l'importance. Souvent, c'est dans ces moments de culte perso, où on est vraiment tranquille, qu'on a coupé son téléphone, tout ça, qu'on a vraiment un temps avec Dieu, que le Seigneur peut nous parler. Combien de fois je devais faire un exposé ou des choses comme ça et je n'arrivais pas à trouver l'idée, enfin, vraiment l'idée, le plan, tout ça. Et des fois, maman, ah, j'ai un truc à faire, je n'ai pas trouvé. Alors elle me comprend, c'est comme elle, quand on invite du monde, qu'est-ce que je vais faire comme repas. Une fois qu'elle sait ce qu'elle va faire, alors comme elle sait faire, ça va. Mais tant qu'elle n'a pas l'idée, elle n'arrive pas à agir, mais ça, c'est pareil pour moi. Tant que je n'ai pas mon plan dans la tête, je suis un petit peu en stress. Mais combien de fois j'étais dans la prière, « Ah Seigneur, je suis invité à tel endroit, je dois faire un exposé là-dessus, et ça ne vient pas, je n'ai pas l'idée. » J'ai prié pour ça, et tout d'un coup, une pensée claire m'est venue, et là, hop, j'ai eu mon thème, j'ai eu mon plan, et là, je m'arrête pour écrire. Et je dis, bah, vraiment, merci Seigneur. Et au moment où je vais faire l'exposé, je sais que j'ai été conduit par Dieu à prêcher ça. Mais si je prie 5 minutes par jour, Dieu ne me parle pas. C'est pas comme avec les SMS. Hein, c'est... La deuxième étape avec Pierre, c'est la foi. Et je trouve que c'est beau de voir l'apôtre Pierre, je vous dis, ce changement. Hein, une foi vraiment forte, véritable. Et j'aimerais même parler de l'audace de la foi. Hein, c'est pas la foi, je suis sauvé, je prends le Christ. Non, non, l'audace de la foi. Il va quelque part mettre en pratique la foi. Mais vous remarquerez que Pierre et Jean, ils n'ont pas dit, « Allez, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le tour des rues de Jérusalem et on va chercher un malade à guérir. Hein, ça va être bien, ça va attirer du monde. Après, on pourra faire une soirée d'évangélisation, tout ça. On invitera Jean-Pierre pour prêcher et tout, ça va être sympa. » Non, non, ils ne sont pas faits comme ça. Ils se rendent au temple, c'est dans leur quotidien qu'ils rencontrent ce malade. Mais ils n'ont pas fait comme Jean-Pierre aurait fait. Vous, je suis sûr que vous auriez dit « Lève-toi et marche !» Ben moi, je vous aurais dit « Écoute, comme je m'occupe, je prierai pour toi, voilà 5 euros, va t'acheter un cheeseburger avec un coca et tu vas voir, ça va bien se passer. » Mais ils n'ont pas fait ça. Hein. Non, non. Ce n'est ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et le malade a connu une entière guérison. Et ça a été l'occasion de témoigner à, apparemment, je ne sais pas s'il y avait des milliers de personnes, mais des centaines au moins de personnes ont entendu la parole et vont se convertir. C'est sûr qu'après, ça va amener des ennuis à Pierre et Jean. Mais ils n'ont pas regardé jusque-là, maman, ils ont guéri. Ils ont vu cet homme, ils en ont prié pour sa guérison, là. Et après, ils ont vu l'occasion de témoigner de leur foi en Jésus. Et Jésus est glorifié. Et j'aime quand Pierre il dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété? C'est pas parce qu'ils ont une longue vie de prière que la guérison a lieu. C'est un acte gratuit de la bonté de Dieu. Et ils font tourner les regards vers notre Seigneur. Ah, parfois on dit, oui, mais c'était Pierre, hein, ce grand apôtre. C'est normal, il était avec Jésus, tout ça, il avait peut-être plus de foi. Mais je crois que dans l'histoire de l'Église, il y a eu bien des hommes qui étaient des hommes comme nous, qui ont accompli des choses extraordinaires. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont dû lire la biographie de Hudson Taylor en Chine, ou de John Wesley, ou de Charles Studd, ou de William Carey. Et plutôt, il devrait connaître William Carey. Hein ? Qu'est-ce qu'il faisait, William Carey ?
C'est à toi.
Non, non, c'est pas toi. Et voilà, ce petit cordonnier qui priait devant la carte du monde et qui un jour est parti en mission. Et maintenant, on parle des missions des temps modernes, hein, depuis William Carey. Les gens qui ont eu confiance en Dieu, qui ont répondu à l'appel, mais qui ont fait vraiment un pas de foi. On pourrait se poser la question aussi, suite au texte qu'on vient de lire, est-ce que la foi que nous avons en Jésus n'obtiendrait-elle plus aujourd'hui d'imprévisibles et émouvantes guérisons ? Est-ce qu'on ne peut plus voir des miracles ? Pas simplement dans des guérisons physiques, mais dans d'autres domaines, on a l'impression que parfois toutes les portes sont fermées, et quand on prie, on voit Dieu agir d'une manière extraordinaire. Moi, j'ai vu des choses, pas aussi grandes que la guérison d'un paralytique. Mais je me rappelle, dans un camp qu'on a fait à Lourdes, on avait réservé avec la mairie, là, un endroit dans des rues piétonnes, c'était pour la deuxième année, on devait faire le spectacle de rue, là. Hein, et c'était un bon endroit, parce qu'il y avait ces rues piétonnes, les gens passaient et tout. Et au moment où on arrive là, il y avait un camion qui était stationné. Et impossible de trouver le propriétaire de ce gros camion, on se demande qu'est-ce qu'on était rentré là-dedans, d'ailleurs. Et là, on a retéléphoné à la mairie et On a eu la dame qui nous avait donné la place, on lui explique la situation. Ah, oh, Lady, je suis vraiment désolé, tout ça, je ne sais pas quoi faire. Mais elle dit, par contre, vous pourriez aller ailleurs sur une place, là. Bon, j'espère que ça ne dérangera pas, parce que c'est devant un restaurant, là, et il y a un chapiteau qui est monté, vous pourriez utiliser le chapiteau, puis les chaises et tout ça. Ah, quand on est arrivé, qu'on a vu la super place qu'on avait. Hein, on avait les chaises, on a pu les utiliser. Il y a même des gars qui étaient à la terrasse du restaurant, ils ont acheté des bouteilles de coca, ils les ont amenées, tout ça. On a vraiment vécu quelque chose de chouette. Et on a vécu la même chose la première année. On avait été faire un spectacle de rue près d'un lac, on s'est fait virer par les maîtres nageurs. Bon, ben, on a dit tant pis. Et il y avait dans ce coin un restaurateur. Il a discuté avec un jeune qui dit, le jeune regardait le spectacle de rue sur son portable. Le gars, il a vu, là, il a dit, c'est quoi de ça? Puis il a expliqué, ben voilà, on est des jeunes, il a tout expliqué la chose. Ah ben, moi je vous invite. Ben il a dit, oui, mais on s'est fait foutre à la porte. Non, 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 ici c'est privé, ils n'ont rien à dire, je vous invite. Alors on y a été le soir, on a fait le spectacle de rue devant 80 personnes. Et le gars, pour nous remercier avant, qu'est-ce qu'il a fait? On est, avec les gens de l'église, on était 40, il nous a payé une paella, glace et tout le bazar. Je peux vous dire que les jeunes qui ont vécu ça, ça les a marqués. Hein. Voilà comment Dieu parfois peut ouvrir les portes, comment il peut agir. Et il y aurait certainement encore bien des choses à dire. Mais parfois c'est vrai que on perd un peu la confiance dans ce Dieu tout-puissant. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans les églises, on s'habitue à une routine de vie, je ne sais pas exactement, mais on perd un peu cette confiance. On perd ce côté que Dieu peut faire des actions éclatantes et tout. Et pourtant, quelqu'un a dit, la foi ne s'appuie pas passivement sur la parole de Dieu. Elle met à l'épreuve ses promesses et réclame avec audace ses miraculeuses interventions. Je ne dis pas qu'on doit rechercher le miraculeux, mais on doit s'attendre à ce que Dieu fasse des miracles. J'aime beaucoup un verset dans Jérémie. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Et je pense que parfois, on perd quelque chose quand on enlève ce côté. Vous avez remarqué, si mettons, il y a des œuvres un peu plus humanitaires, comme aller construire un hôpital en Afrique, c'est une bonne chose, et on voit les fruits, on voit le pourquoi de ça, et on va avoir facile à s'engager là, ou à soutenir, à parrainer des jeunes qui sont dans un collège, dans un pays, pour voilà, on va les parrainer pour qu'ils puissent suivre leur scolarité, et on voit plus facilement. Mais après, parfois, pour vraiment faire un pas de foi, comme prier pour des gens et tout ça, pour la guérison, bah, moi, quand j'étais au Burkina Faso, là, alors j'ai travaillé avec les assemblées de Dieu et le pasteur il me dit, bon Jean-Pierre, le soir, tu prêches, tu fais un appel, après tu pries pour les malades. Les deux premières choses, moi, il n'y avait pas de souci. Après, quand on a dit tu pries pour les malades, je me suis dit, oh, mais comment je fais? Est-ce qu'il faut que j'appelle les gens derrière nous? Mais je dis, comment vous faites là? Non, tu pries pour les malades comme ça, ah bon, ben voilà. Donc j'ai prié pour les malades. Et pour moi, ça m'a demandé de faire un pas de foi parce que j'étais. Alors j'ai pas vu de grandes guérisons, mais comme j'étais dans la brousse avec juste un petit projecteur, peut-être que les guéris, je les ai pas vus. Je me dis, ben. Mais vous voyez, mais lui, il disait ça d'une manière tellement naturelle. Et après, les gens venaient me chercher. Hein, Jean-Pierre, il y a quelqu'un, voudrait que tu pries pour son enfant, il voudrait que tu pries pour ça. Alors j'allais prier pour les gens, mais j'ai été remis en question en disant, ben, c'est pas naturel pour moi, mais pour eux, si. Et je ne vais pas dire c'est le compteur ou c'est moi, non, ça m'a remis en question. Mais Jean-Pierre, tu prêches l'évangile, ta foi et tout, et là on te demande de prier pour des malades, et tu te sens un petit peu bloqué. Et je pense que parfois on a peut-être besoin de redécouvrir cette dimension. Je m'excuse, je suis paumé dans mes notes. Hein, j'arrive. Vous avez vu, je suis vraiment paumé. Hein. Et bien voilà, la prédication. Vous avez eu peur, hein? Non. La prière, la foi qui a permis cette guérison. Mais pour moi, le texte n'est pas centré sur la guérison, il est centré sur la proclamation de l'évangile. Je ne vois pas un seul exemple dans les évangiles où Jésus ferait un miracle pour le miracle. Et il a même parfois refusé de faire des miracles, parce qu'il n'était pas là pour faire du spectaculaire. Et les guérisons ou les miracles qui peuvent s'accomplir parfois, ils sont toujours là pour appuyer la prédication, pour transmettre un enseignement. Hein, et dans l'évangile de Jean, ce n'est pas le mot miracle qu'on voyait, c'est le mot signe à travers. C'est la guérison de l'aveugle, multiplication des pains. Jésus est en train de transmettre quelque chose. Et quand il fait la multiplication des pains, et bien en même temps, il dit aux gens, je suis le pain de vie. Donc ils ont une image, ils ont un parallèle, il y a quelque chose à comprendre. Mais il ne fait pas les miracles pour faire du spectacle. Et les apôtres, dans ce qu'ils ont fait, on voit bien, il n'y a rien dans le spectacle. C'est toujours pour glorifier le Seigneur et pour nous faire découvrir qui il est. Je me dis que parfois c'est Jésus qui n'est pas toujours au centre de nous. Alors c'est difficile de transmettre quelque chose qu'on ne vit pas. Mais je me dis que Pierre et Jean, bien sûr, ils ont eu ce privilège de 3 ans avec Jésus, de vivre dans son intimité et de vraiment le connaître d'une manière très personnelle. Hein, et quand on voit leur prédication ici, on voit vraiment que ça tourne autour de la personne de Jésus. Et la chose que j'avais à cœur de dire par rapport à ce point, c'est que parfois dans notre manière de communiquer l'évangile, eh ben, on rentre encore dans ce débat d'idées. Vous voyez, plutôt que de présenter vraiment la personne de Jésus, on essaye de convaincre des gens de notre foi, on a des discussions sur la foi, sur le Dieu créateur, et on oublie que le centre, c'est Jésus-Christ. Une autre chose que je remarque dans ce texte, c'est que Pierre s'efface derrière le Seigneur. Je ne fais pas de jeu de mots avec s'efface, hein, vous voyez ? Non ? Un peu compliqué pour vous. On expliquera à nos amis parce qu'ils vont être targués. Mais vous voyez comment il s'efface derrière le nom du Seigneur. Et je trouve que c'est beau. Hein, parce que franchement, non mais, franchement, allez, on est entre nous les gars. Hein. Ici, ici, hein. Non mais là, il y a un gars qui rentre dans une chaise roulante, il y en a un de nous qui prie et que le gars il se lève, ça aurait de quoi se la péter un peu, non ? Non ? On est tellement humble, non ? Non ? On a une grande humilité dans les bourses. Mais Pierre, il s'efface. Et regardez tous les autres passages, je voulais parler de guérison et tout ça. Vraiment, il cherche toujours à glorifier Jésus. Et les œuvres que nous pouvons accomplir et qui ont été préparées par le Seigneur ne doivent pas effacer sa gloire. Alors j'aimerais conclure en disant, on doit peut-être apprendre à rechercher les œuvres que Dieu a préparées pour nous et à se dire qu'au quotidien, il en prépare. Pas forcément un truc qui est miraculeux, mais peut-être simplement d'aller visiter notre voisin qui est à l'hôpital parce qu'il a un problème. Vous voyez ? À chaque fois que je partage l'amour de Dieu et que je fais du bien avec moi, eh ben, je crois que j'entre dans les œuvres que Dieu a préparées. Mais n'ayons pas peur aussi parfois de faire des pas de foi pour voir des choses vraiment peut-être miraculeuses, spectaculaires qui vont se passer. Alors, les frères et sœurs de Darnay, on a marché 8 ans ensemble partiellement. Et là, on a parlé de transmission. Je vous ai parlé d'œuvres qui ont été préparées d'avance pour vous. Et la parole que je voudrais vous laisser, c'est entrer sans complexe dans les œuvres que le Seigneur a préparées. Et ayez foi que non seulement il en a préparées, mais qu'il va vous donner aussi les dons, les capacités pour pouvoir les accomplir. Et que vraiment son nom puisse continuer à être glorifié au sein de cette église. Amen.